Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Vous savez, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas anti-masque, je ne fais pas partie des gens qui disent que la COVID-19, c'est rien de plus qu'une grippe banale. Je ne fais pas partie, donc, de tout ce mouvement-là. Je trouve, par contre, que parfois, il y a des phrases que je lis dans les journaux qui m'ébranlent. Dans ma conviction qu'en ce moment, on fait la bonne chose dans notre lutte contre la COVID-19 et que la réaction qu'on a face à la COVID est tout à fait mesurée et intelligente. Il y a des fois des petites phrases qui viennent semer un doute dans mon esprit. J'en ai lu une de ces phrases-là dans le journal La Presse de ce matin. Je vous explique, le titre de l'article, c'est « Le tiers des défunts serait mort dans les semaines suivantes ». Premier paragraphe va comme suit. Environ le tiers des Québécois à qui on a attribué la cause du décès à la COVID-19 lors de la première vague serait très probablement mort d'autres causes dans les semaines suivantes, selon une étude démographique fraîchement publiée par deux chercheurs de HEC Montréal. Alors, c'est assez particulier. Quand on regarde la première vague au Québec, le tiers de ces gens-là qui sont morts de la COVID-19 seraient morts de toute façon. Pas. Des fois, on a entendu des chiffres, c'est des gens très âgés qui seraient morts un an plus tard, deux ans plus tard. Non, non, non. L'étude des HEC nous dit que ces gens-là seraient morts d'autres causes dans les semaines qui suivent. Alors, mon but aujourd'hui n'est pas, évidemment, de minimiser le fait qu'il y a eu énormément de mortalité inacceptable, des gens qui sont morts dans des conditions absolument dégueulasses dans les CHSLD, mais je pense qu'il faut quand même se questionner sur la façon dont on a procédé. Est-ce qu'on a isolé les personnes qui étaient malades? Est-ce qu'on a bien protégé des gens qui, justement, souffraient de comorbidité? Et aussi, quand on regarde les chiffres, est-ce qu'on tient compte de ça, de cette réalité qui est que beaucoup des gens qui sont morts, donc quand même le tiers, seraient morts de toute façon pour d'autres raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la COVID? Alors, est-ce que le confinement, est-ce que les mesures extrêmes qu'on a prises sont pas démesurées par rapport à la mortalité? J'ai pas de réponse à cette question-là, mais je trouve que c'est important de se la poser sans partir sur des scénarios de fous, de complotistes ou de conspirationnistes. Je pense que c'est sain et intelligent en démocratie de se poser des questions qui sont tout à fait légitimes. En tout cas, quand j'ai vu ces chiffres-là, le tiers des défunts serait mort dans les semaines suivantes, j'ai poussé un grand ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Bon, les Américains ont décidé de dire « bye bye, you're fired » à Donald Trump. Donc, il va peut-être, on espère en tout cas, céder le pas en janvier 2021. Mais ça veut dire aussi la disparition de nos écrans de télé, de nos médias, de la splendide Melania Trump. On a beau aimer son mari ou pas, l'aimer elle ou pas. Écoute, il faut quand même convenir qu'elle est très, très jolie. On va parler de son style vestimentaire, pardon, avec Jean Héroldi, qui est notre chroniqueur du mercredi. Bonjour, Jean.
Comment vas-tu, Sophie?
Ben moi, ça va très bien. Écoute, Jean, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Melania Trump, c'est pas pour rien quand même qu'elle a fait carrière comme mannequin. On s'entend que c'est une splendeur.
Ben, à mon avis, c'est une splendeur. En fait, c'est pour moi un mannequin de runway, c'est-à-dire un mannequin qui ne sourit pas, qui n'a pas beaucoup de chaleur, mais qui, par contre, peut porter ce qu'elle veut. Elle peut, elle, c'est vraiment la femme qui peut rentrer chez n'importe quel designer et même prendre, je pense, des vêtements qui ne coûteraient pas cher et qui vont avoir l'air cher.
c'est bon, ça! Ouais.
Mais, tu sais, parce qu'on part de tête, mais on s'entend qu'elle est hot avec ses styles, mais elle est froide dans le crime comme personne quand elle regarde. Moi, je suis pas sûr de la croiser d'un bar que j'offrirais un verre. Je suis pas sûr de ça.
Oui, mais c'est peut-être ça aussi le propre de, tu sais, je veux dire, parfois les femmes d'Europe de l'Est sont plus froides ou plus semblent plus glaciales, mais justement ça leur confère un petit je ne sais quoi qui peut être absolument charmant. Mais on peut pas parler de Melania Trump sans parler de son style vestimentaire, parce que au cours des 4 dernières années, il y a eu quand même certains épisodes où ce qu'elle portait sur le dos faisait plus jaser que ce qui sortait de la bouche de son mari. Entre autres, à un moment donné, elle est allée visiter un endroit où il y avait des enfants de migrants. Et écoute, elle portait une veste Zara, qui devait coûter pas très cher. Je pense que ça coûtait $52, la veste. Et sur la veste, c'était écrit « I really don't care, do you? » Pas vraiment l'affaire à aller porter quand tu t'en vas visiter des familles séparées à la frontière mexicaine États-Unis, là.
Mais tu sais, d'être bien habillé, c'est une chose. D'avoir le bon costume pour le bon endroit, pour le bon événement, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Parce que je pense que dans ces... Tu sais, ça, tu parles du manteau, là, c'était comme kaki, puis c'était écrit en blanc, un peu comme un graffiti au dos, là. Tu sais, en soi, c'est un super beau manteau. Le look, ça y faisait bien, mais mal choisi, un peu comme les paroles de son mari, probablement. Souvent, c'est un peu la même... Ça doit être un peu la même famille, j'imagine.
Mais c'est intéressant quand même, parce que on a vu ce phénomène-là au cours des dernières années où dans la mode le vêtement est un message, c'est-à-dire que tu sais, je pense par exemple ici au Québec, il y a le fameux t-shirt que j'ai déjà porté d'ailleurs, à tout le monde en parle. Je parle féministe, mais tu sais, c'est même sur les plus grandes passerelles des plus grands designers, il y avait des t-shirts This is what a feminist looks like, ou tu sais, plein de slogans inscrit sur des vêtements. On en a vu une tonne pis une barge là depuis quelques années. Mais quand t'es la première dame des États-Unis, tu peux pas te permettre, parce que n'importe quoi que tu vas porter, déjà ça va être un message. Mais si en plus il y a un message écrit dessus, c'est un méchant faux pas, ouais. Là.
Je pense qu'il faut vraiment que tu te poses la question, ce que les gens font passer. Puis moi, je le dis tout le temps quand je vends des vêtements avec des imprimés, ou que je fais essayer des vêtements avec des imprimés, je dis tout le temps aux gens, est-ce que vous avez lu comme il faut ce qui est écrit sur l'imprimé? Parce que, tu sais, c'est ce que tu vas assumer là, comme message. Et des fois, on lit pas, puis là, ouais, des fois, on lit, puis on fait comme, ah ouais, en français, ça veut dire ça, parce que, tu sais, il y a des gens qui comprennent pas non plus l'anglais, et qui mettent un peu n'importe quel message, puis c'est vrai que ça, c'est pas à tous les endroits qu'on peut porter. Et elle, dans son cas, en tout cas, c'était assez mal choisi comme message pour ce moment-là.
Mais il y a quelque chose de très particulier avec Melania Trump, c'est que si, mettons, Michelle Obama, c'était une très belle femme aussi, mais ouais. Parce que la majorité bien pensante aimait son mari, Barack Obama, même si elle faisait des fashion faux pas, ou qu'elle portait des affaires qui avaient pas d'allure, ben on était, je trouve, beaucoup plus conciliant avec elle. Alors que, par exemple, Melania Trump, à un moment donné, elle a porté une veste manteau Dolce & Gabbana absolument splendide, là, avec des grosses fleurs, et oui. Les gens lui sont tombés dessus parce que ça coûtait très cher, ça coûtait $70,000. Mais tu sais, elle porte quelque chose à $52 de Zara, les gens lui tombent dessus de toute façon, fait qu'on a l'impression que, peu importe ce qu'elle se met sur le dos, cette femme-là, les gens qui n'aiment pas son mari vont ne pas l'aimer, elle.
Ouais, mais ça, là, Sophie, on appelle ça le charisme. Quand t'as pas de charisme, non, mais c'est vrai, tu peux être super belle, mais les gens vont t'attaquer parce que tu n'as pas de charisme. La personne qui a du charisme, même si elle va faire une erreur, même si elle va s'enfarger, même si c'est pas grave. Il y en avait des. Puis je reviens encore au monde du mannequinat. Il y avait des filles sur les runways qui peuvent s'enfarger, perdre une chaussure, puis ça va être cute, ça va être le fun. Mais il y en a d'autres qui vont juste marcher tout droit, puis déjà, on n'aime pas les voir, on a hâte qu'ils soient passés. Il y a vraiment. T'sais, on en a déjà parlé là, du charisme, puis je pense que c'est vraiment le cas. Michelle Obama, c'est le grand sourire, c'est ça. C'est ce qu'on,
elle respirait l'intelligence.
Ouais, puis c'est réconfortant aussi de voir des gens comme ça. Parce que l'autre, t'as l'impression qu'elle est là juste comme une potiche, comme un accessoire qui est là pour être belle, assise sur une chaise carrée, mais que même si elle n'était pas là, ce que ça aurait arrivé, c'est que ça aurait coûté moins cher de taxes parce qu'on n'aurait pas eu besoin de l'habiller pour être là. Et en même temps, ben, Melania Trump, elle vient de, T'sais, ces gens-là, ils viennent de familles très, très riches, des entrepreneurs et tout ça. Donc, ils sont habitués de vivre. T'sais, Melania Trump, je pense pas qu'elle commençait à s'habiller dans des manteaux de 70 000 $ juste parce qu'elle était la femme du président. Je pense qu'elle s'habillait déjà dans ses... T'sais, elle fait juste couiller dans sa garde-robe. Pour elle, c'est la vie normale, mais ils devraient quand même se mettre au niveau. T'sais, moi, ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu parles avec des Chinois, parle en chinois. C'est descend.
Mets-toi au niveau des gens.
Mets-toi au niveau des gens. Et je pense que souvent, ces gens-là ne pensent pas à ça. Ils pensent plus à faire une belle photo dans le jet en sortant, en envoyant la main. Mais tout ça, ça devient pas. Je sais pas. Surtout quand on est président. Quand on est vedette, c'est une autre chose. Je pense que si une vedette a gagné ses sous, comme Céline a gagné ses sous en chantant, en travaillant, c'est sous à elle de l'avoir sorti de son jet puis envoyer la main, je fais comme, ah ben cool, elle a réussi, puis c'est son argent, puis tant mieux. Mais quand je vois un président sortir avec tout le tralala et toutes les grosses signatures, les gros vêtements, et tu sais, les grosses signatures, mais aussi, ce que je suis surpris, c'est de pas voir qu'ils sont si habillés avec les créateurs qui sont américains.
Ben et, voilà, j'allais t'amener là-dessus.
Je regarde juste. Je vois, tu sais, même la femme de Biden, qui avait une robe Oscar de la Renta, puis j'ai fait mes recherches, j'ai dit, Oscar de la Renta, peut-être qu'il est américain, finalement, tu sais. Mais il est dominicain. Il est dominicain, Oscar de la Renta.
Et, il est américain, 71
à peu près.
Ouais.
Et, j'ai regardé, puis après ça, j'ai regardé aussi le saut blanc que Kamala Harris portait de... voyons, j'ai oublié le nom. Caroline Herrera. Et je me suis dit, ah, peut-être que ça, c'est américain. Et ben elle, c'est une Vénézuélienne qui a travaillé pour plusieurs brands européens et tout ça, qui est aux États-Unis depuis quelques années et qui habillait Jacqueline Onassis dans ces 12 dernières années. Mais on voit qu'ils font pas de différence entre les brands. Il me semble que j'aurais aimé ça à un moment donné voir, je sais pas moi, la femme du habillée en Ralph Lauren. Il me semble que c'est Ralph Lauren, Calvin Klein, pour moi, c'est ça représente les États-Unis encore plus.
Ouais, ben non, mais t'as tout à fait raison.
Peut-être que je me trompe.
Mais, tu sais, je regarde, par exemple, je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, je me souviens plus, mais tu sais, Brigitte Macron, la femme du président de la République française, elle ne porte que du français. Des pieds à la tête, les souliers, les vêtements, les bijoux, les sacs à main, ce n'est que du français. Et,
elle est chanteuse, par exemple, Sophie.
Oui, parce qu'elle a une amie qui travaille pour Louis Vuitton, Ouais, c'est ça.
Ben non, mais pas juste ça, c'est parce que tous les créateurs, c'est beaucoup
sont magnifiques.
Ils viennent de la France ou de l'Italie. Je veux dire, c'est pas le choix des boutiques. Je pense pas que si t'es à Paris, t'as le goût t'as peut-être le goût, mais que tu irais nécessairement à t'habiller en Calvin Klein ou en Ralph Lauren avec tous les noms qu'il y a là-bas.
C'est sûr.
Puis souvent, ils sont rendus français, mais avant étaient italiens ou d'autres origines. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, il y a sûrement des pays qui auraient pas beaucoup de choix parce que il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de designers, tu sais. Mais en tout cas, je trouve qu'il y aurait un effort à faire.
Et... Absolument, ouais. Mais tu vois, c'est intéressant aussi parce que des fois, les gens un peu méprisants, un peu condescendants, un peu hautains, disent, bon, ben, tu sais, parler de la mode, c'est un sujet futile, mais je m'excuse, mais tu envoies un message avec les vêtements que tu portes. C'est vraiment, là, il y a rien d'anodin. C'est pas vrai que c'est juste de la guenille. Et tu sais, à un moment donné, c'était en 2017 quand il y avait eu l'ouragan Harvey. Il y avait beaucoup de victimes à Porto Rico. Et Melania Trump était allée rendre visite aux gens de Porto Rico avec le président des États-Unis. On se souviendra tous parce qu'elle était sortie de l'avion en portant des talons hauts, des Manolo Blahnik, vraiment des talons aiguilles. Et les gens disaient, ben, voyons donc, ça n'a pas de sens. Bon, après, elle s'est changée. Mais juste l'image de dire, tu t'en vas dans une zone sinistrée, rencontrer des gens, tu sais, c'est comme, habille-toi de façon, tu sais, mettons, je regarde quand il y avait eu des inondations au Québec, on se souviendra tous, le premier ministre est arrivé là avec des grosses bottes de pluie, puis tu sais, ça montrait, je suis comme vous, et j'ai compris l'urgence de la situation, puis moi aussi, j'ai les deux bouts dans la boîte, les deux pieds dans la boîte, mais tu sais, quand t'arrives avec des Manolo Blahnik,
ouais, tu donnes...
Oui, ça envoie pas exactement le même message,
ben,
mais...
Puis d'un, tu sais, le Manolo Blahnik, au prix qu'il vaut, juste une paire, juste le pied gauche pourrait nourrir 10 familles pendant une semaine là-bas, tu sais, c'est comme...
Ça a tellement raison!
Tu sais, on y pense-tu comme il faut, tu sais?
C'est très drôle, c'est une excellente comparaison. J'avais pas pensé à ça au niveau du prix, mais t'as tout à fait raison. Écoute, moi je pense quand même que il reste quand même qu'un double standard. Je comprends ton affaire de charisme et tout ça, mais écoute, du côté des choses positives quand même qu'on peut dire sur Melania Trump, c'est qu'à un moment donné, elle est allée en Arabie Saoudite. On sait à quel point là-bas les droits des femmes, les femmes ont moins de droits que les chameaux, et les femmes doivent être vraiment recouvertes d'un abri tempo des pieds jusqu'à la tête. Et elle, non, elle a refusé de se voiler, elle a refusé de se mettre à genoux devant un code vestimentaire archaïque et extrêmement sexiste. Et est allée là avec ses belles jambes, alors que ça se fait pas montrer de la chair là-bas. Elle aurait pu porter une jupe très longue ou une robe ou un pantalon. Eh non! Et moi, là-dessus, au moins, je veux l'applaudir. Elle a tenu tête à ce régime misogyne.
Mais tu sais, Sophie, je sais qu'à un moment donné, on sait plus sur quel pied danser, dans le sens que on voit Justin Trudeau qui, lui, est allé en Inde et s'était habillé comme les gens de là-bas. Et c'est fait critiquer. L'autre ne veut pas le faire. C'est sûrement fait critiquer. À un moment donné, on ne sait plus quoi faire. C'est un peu, tu m'avais envoyé aussi un sujet sur l'appropriation culturelle. Là.
Oui, on va en parler. Oui, alors parlons-en. Alors, il faut juste expliquer c'est quoi. Oui,
parce que ça se rattache un peu à tout ça.
Bon, alors, il y a une designer française que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Isabelle Marant. Écoute, elle s'est fait reprocher par le Mexique d'utiliser des motifs traditionnels des peuples indigènes mexicains. Mais c'est pas genre une influenceuse au Mexique. Écoute, c'est la ministre de la Culture. La ministre de la Culture au Mexique qui a écrit à Isabelle Marant a dit « Je vous demande d'expliquer publiquement sur quel fondement vous privatisez un bien collectif. » Alors, c'est non seulement un cas d'appropriation culturelle où on lui dit « Ben toi, t'es française, t'as pas d'affaire à utiliser ça », mais en plus où on lui dit « Vous avez utilisé pour votre bénéfice financier quelque chose qui, ici au Mexique, appartient uniquement à ce peuple-là, vous avez pas d'affaire. » Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben moi je trouve qu'à un moment donné, est-ce que pour porter un kimono il faut être japonais, pour fabriquer des kimonos, est-ce qu'il faut être japonais? Moi je trouve que comme designer des fois c'est l'inspiration, probablement que Isabelle Marant adore ces imprimés, ces motifs, ces tissages là parce que c'est quand même, tu sais, c'est des beaux tissages. Mais je veux dire, Ralph Lauren en fait dans sa collection des tissages aussi qui sont, c'est peut-être pas de cette tribu mexicaine là, mais c'est peut-être d'autres groupements aux États-Unis.
Oui,
mais
c'est un de ces points points distinctifs de Ralph Lauren, justement, ces motifs-là. Navajo, je pense.
C'est ça. Je ne sais pas c'est quoi l'origine exactement, mais tout le monde s'inspire et moi, en tant que peuple mexicain, je serais fier que quelqu'un s'inspire de ma culture. Tu sais, est-ce qu'on voit juste les dollars? Je pense pas qu'Isabelle Marant, c'est la plus... comment je pourrais dire? C'est une designer qui réussit très bien, mais c'est pas la fille... qui fait un peu n'importe quoi pour faire de l'argent, puis qui...
Non,
je la vois, moi,
je pense pas qu'elle est multimillionnaire. Oui, c'est ça, tout à fait.
Non, moi non plus, je pense pas. C'est pas le feeling que j'ai. Je me dis à la place, pourquoi que le gouvernement du Mexique n'a pas appelé Isabelle Marant et dit hey, on pourrait pas faire une collaboration, puis on donne un don, on donne un pourcentage
Quelle bonne idée.
Des ventes au Mexique, pour... Tu sais, pour je sais pas, pour les enfants, pour les écoles, il y a tellement de besoins au Mexique de toute façon. Peut-être, il me semble que c'est plus ça que d'attaquer directement, à moins qu'on veut vraiment faire de la publicité du côté du Mexique. Mais moi, ce côté-là, appropriation culturelle, je viens que je ne le comprends plus. Parce que je me dis, à un moment donné, on est tous mélangés. On a tous là, on a tout un petit mélange de ça. T'sais, moi, je suis italien, québécois, puis il y a sûrement. Dans mes origines plus lointaines, il y a peut-être de l'Amérindien, il y a peut-être... Tu sais, tout le monde devient, et de plus en plus, c'est comme ça, les gens sont mixés. Pourquoi on peut pas juste être libre, faire ce qu'on veut, ce qu'on aime? Et moi, je trouve que ça va trop loin, ces affaires-là. Puis côté création, ben ça vient nous bloquer.
Ben oui, on vous met des bâtons dans les roues, là.
Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que... Puis il y a d'autres mondes qui vont dire « Hey, qu'est-ce que... » Puis il y a un autre comité qui, eux, ils se réunissent pour dire « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déranger? Pour aller intéresser la presse? Pour avoir une visibilité? » Fait que, tu sais, il y a les deux côtés que... tu sais, c'est ça la réalité des choses. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des titres dans les journaux. Et dans, je dis pas, puis Isabelle Marant, c'est vraiment pas ce que je sens de cette marque-là. Mm-hmm. Mais en tout cas, pour les gens qui connaissaient pas Isabelle Marant, ben c'est une bonne publicité parce que quand ça se promène sur les réseaux internet et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voir c'est quoi, puis peut-être acheter un chandail Isabelle Marant, finalement, un petit t-shirt confortable, une paire de chaussures. Fait que tu sais, regarde, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Je pense que pour la marque, c'est pas Isabelle Marant qui va être qui va avoir le côté négatif. Je pense que c'est plus le Mexique qui, en tout cas à mon avis. Puis je comprends pas, tu sais, peut-être que je comprends pas bien non plus de ce que le Mexique veut exactement, puis je connais pas non plus mais, la réalité de ces gens-là, de ces tribus-là, là.
Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que pourquoi mener des batailles alors que ce que tu veux, c'est gagner la guerre? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des problèmes énormes avec les populations indigènes au Mexique, les populations autochtones, comme ici. Ouais. Il y a des réalités économiques, il y a des réalités de santé, il y a des réalités sociologiques qui sont extrêmement importante. Si le combat que tu choisis de mener, c'est il y a quelqu'un à 8000 kilomètres de chez toi, de l'autre côté de l'océan, dans un autre continent, qui utilise des dessins qui appartiennent à ta culture, il me semble que ça change pas grand-chose à ta réalité au quotidien. Quand tu te lèves le matin, t'es bien plus agressé par le fait, je sais pas moi, qu'il y a un taux de criminalité élevé ou que t'as pas l'eau potable ou que tu manges pas trois fois par jour. Il me semble qu'il y a des réalités plus importantes qu'une designer en France. Mais écoute, qui suis-je pour parler, moi qui suis une femme blanche privilégiée? On va se quitter là-dessus, Jean.
Moi, je suis encore plus fâché. C'est un H&M qui avait pris ce print-là et qui est à vendre à petit prix au Mexique.
Oui, voilà.
Isabelle Marant avec des prix haut de gamme qu'on ne retrouve probablement pas là-bas. Hey, bonne semaine, Sophie.
Exactement, t'as tout à fait raison. Puis c'est bien que tu rappelles ton héritage italien, parce que des fois on oublie que Airoldi è italiano, certo. Airoldi, grazie mille. Airoldi, ouais. Si, ci vediamo la settimana prossima. Merci beaucoup. À mercredi prochain.
Je comprends rien, ça qui est bien. Bye bye.
Mercredi, c'est ça qui est important. Mercredi prochain. Bye.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a un livre au titre choc qui fait beaucoup, beaucoup jaser en France en ce moment. Quand j'ai vu le titre du livre et tout le débat que ça suscitait, je me suis dit, ben, il y a sûrement des choses là-dedans qui peuvent nous intéresser ici au Québec. Le livre s'intitule « Quand la psychose fait dérailler le monde ». C'est publié aux éditions Tract Gallimard. Et cette fameuse psychose, ben, c'est cette réaction, peut-être certains diraient une surréaction à la COVID-19. C'est un livre qui est écrit par Renaud Girard et Jean-Loup Bonamy. Monsieur Bonamy est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bonamy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Quelle est cette psychose dont vous parlez dans votre livre?
Merci à vous. Donc, tout d'abord, je tenais à dire qu'en tant que Français, j'étais très heureux de parler avec mes compatriotes de cœur québécois.
C'est gentil.
Donc, ce que je voulais dire à propos justement de la situation actuelle, c'est que je pense que la COVID-19 est une épidémie grave. C'est un réel problème de santé publique qu'il ne faut surtout pas minimiser ou prendre à la légère. Mais je pense toutefois que nous sommes dans une surréaction qui tient plus de l'émotionnel que du rationnel, et que cette surréaction est tout à fait contre-productive. En fait, je pense qu'il faut comprendre le vrai problème sanitaire que pose la COVID-19. Ce problème, c'est la capacité du virus à saturer les services hospitaliers, ce qui est un vrai problème auquel il faut apporter, bien sûr, des réponses. Mais, par exemple, la mortalité du virus n'est pas un véritable enjeu de santé publique, puisque c'est une mortalité qui en fait est très faible, inférieure à 0,5%. Et par exemple, je vais vous donner un exemple sur le navire Le Charles de Gaulle, le plus grand navire de guerre de la marine française, eh bien, 1046 de nos marins ont été infectés par la COVID-19 et zéro sont morts. Zéro sur 1046.
Oui.
En France, la moyenne d'âge des morts de la COVID est de 81 ans, ce qui est l'âge de l'espérance de vie et, française, et 50% des morts ont plus de 84 ans. Donc il faut réagir face à la COVID, mais ne surréagissons pas de manière irrationnelle.
Alors, vous avez des mots très durs pour le confinement. Vous considérez que c'est une mesure qui est archaïque et surtout une mesure qui est inefficace. Pourquoi, M. Bonamy?
Alors, je ne dirais pas exactement cela. En fait, on dit que le confinement est peu efficace. C'est-à-dire
D'accord.
que, bien sûr, le confinement, à un moment, finit par marcher. Mais disons qu'il est peu efficace en soi, qu'il est beaucoup moins efficace que d'autres méthodes appliquées dans d'autres pays pour lutter contre la COVID-19 et pour sauver des vies, et qu'il est et surtout qu'il a des coûts, des conséquences économiques, sociales, psychologiques et même sanitaires terribles, bien supérieurs à ses maigres avantages. Donc en fait, nous nous disons que le confinement, d'une part, produit des effets terribles. En France, le premier confinement, celui du printemps, a jeté plus d'un million de Français en plus dans la pauvreté. Un million de Français ont
C'est
basculé dans la pauvreté. C'est énorme. Le nombre de gens qui bénéficient de l'assistance alimentaire pour manger, c'est-à-dire de la soupe populaire, a bondi de 30%. Et
C'est
une
énorme.
Association comme le Secours Populaire qui distribue des repas a dit que le nombre des gens qui faisaient appel à ces services avait explosé et que 45% des gens qui faisaient appel à ces services étaient jusque-là inconnus de l'association. Donc vraiment des gens qui ont été appauvris par le confinement. On a des centaines de milliers de chômeurs en plus. Déjà, c'est des conséquences qui sont absolument folles.
Et, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, M. Bonamy? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment à la place du confinement?
Ce qu'on préconise, alors c'est une stratégie pour la France. Bon, je pense qu'après, elle peut être applicable ailleurs
Absolument.
Avec des adaptations. Mais ce qu'on propose, et on s'est appuyé sur l'expertise de nombreux médecins qui partagent notre avis et qui nous ont aidés pour le livre. Ça, c'est un point très important. On reçoit régulièrement des messages de soutien, de félicitations et de remerciements aussi de la part de médecins. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il faudrait faire, c'est que, par exemple, aujourd'hui en France, 90% des gens qui sont en réanimation pour cause de Covid sont atteints, en fait, d'autres pathologies, qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire une autre maladie qui vient s'ajouter à la Covid et amplifier les effets de la Covid. Ce qu'il faut, c'est dépister ces personnes qu'on peut identifier grâce au big data de l'assurance maladie, en tout cas en France. Il faut les tester gratuitement deux fois par semaine avec des tests antigéniques très rapides qui donnent un résultat très vite et qui sont très peu chers. Et donc les tester deux fois par semaine, leur fournir gratuitement des masques FFP2 qui protègent vraiment, contrairement aux masques ordinaires que tout le monde porte. Et si jamais ils sont malades, si jamais ils sont positifs à la COVID, les prendre en charge le plus tôt possible. Vous savez.
Et les isoler.
Et les isoler
de façon hermétique.
De manière ciblée si elles sont malades.
Oui.
Et 80% des contaminations ont lieu dans la sphère familiale. Donc bien sûr que si vous êtes positif à la COVID, il faut vous isoler et surtout il faut vous traiter. C'est le mot-clé. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les médecins sont d'accord pour vous dire que si en début de maladie, on vous suit et qu'on vous donne de l'oxygène pour faire remonter le taux d'oxygène dans le sang et éventuellement des corticoïdes et une piqûre d'anticoagulant pour éviter l'embolie pulmonaire, le taux de passage en réanimation et le taux de décès s'effondrent. Et c'est ça que pour le moment, nous n'arrivons pas à faire en France par manque d'organisation logistique. C'est tester les personnes à risque deux fois par semaine. Si elles sont malades, isoler les isoler, comme vous l'avez très bien dit, et les traiter le plus tôt possible.
Ouais. Quand vous parlez de psychose, monsieur Bonamy, un des exemples que vous citez qui contribue à ce que vous appelez cette psychose, ce sont les médias. Le fait que, bon, je pense qu'en France, c'est exactement la même chose qu'ici au Québec. Tous les jours, à heure régulière, on nous dit, bon, il y a tant de patients, il y a tant de personnes à l'hôpital, il y a tant de cas. Et ça, vous dites, ben, dans le fond, pourquoi on le fait pas pour les cancers? Pourquoi on le fait pas pour les gens qui sont morts d'une crise cardiaque? On est en train de créer l'impression que cette maladie-là tue plus que d'autres maladies. Donc, vous pointez vraiment du doigt les médias.
Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'un million de morts de la COVID dans le monde, avec une moyenne d'âge très élevée. Les cancers font 9 millions de morts dans le monde chaque année. La faim dans le monde fait aussi 9 millions de morts, c'est-à-dire qu'il suffit à la faim de 40 jours pour atteindre le bilan de la COVID. Et ça, c'est constant, c'est tout le temps. Et donc, pourquoi est-ce que les médias ne donneraient pas aussi le nombre de morts de la grippe? On en a entre 5 000 et 15 000 chaque année, avec un pic à 21 000 en 2017. Le nombre de morts du cancer, qui est bien plus important, des accidents de la route, des suicides, ou même du tabagisme, qui fait en France 75 000 morts par an.
Ouais, vous avez d'ailleurs dans votre, je sais pas si c'est dans votre livre ou dans différentes entrevues, en tout cas j'ai vu ça passer. Quand vous parlez du rôle des médias, vous dites ben écoutez, par exemple, il y a aussi plein de gens qui disent des choses qui ont pas vraiment d'allure. Et là vous rigolez un peu, vous vous moquez de Theresa Tam qui chez nous est vraiment la responsable canadienne de la santé publique. Sa proposition d'avoir des relations sexuelles en portant le masque, ça comme Français, ça a dû bien vous faire rigoler quand même.
je trouve que on a toute une liste d'exemples dans notre livre, hein, quand la psychose fait dérailler le monde, qu'on a publié chez Gallimard. Et donc parmi, en effet, la liste des invraisemblances, on a vu passer, donc on a rajouté ça dans des entretiens, par exemple, cette incitation à porter un masque durant les relations sexuelles. Alors d'une part, en tout cas moi je la trouve complètement absurde, ubuesque et en même temps inquiétante, hein, en termes d'intrusion dans la vie privée, de respect des libertés, d'une parole publique qui là se ridiculise, se trivialise. Et d'autre part, je pense que malheureusement, même si tous les Français et tous les Québécois portent des masques durant leurs relations sexuelles, eh bien, ça ne fera pas baisser le nombre de morts. Et au lieu de parler de mesures coercitives, qui parfois virent au grotesque, on ferait mieux de nous parler justement de dépistage de masse. La Slovaquie vient de dépister en un week-end 80% de sa population.
C'est vrai.
De protection des personnes à risque, puisque c'est elles qui, en fait, sont vraiment touchées par les effets graves du virus, de prise en charge le plus tôt possible des malades, avec de l'oxygène, des corticoïdes, des anticoagulants. C'est ça qu'on attend de la part de responsables de la santé publique, des choses réalistes et efficaces, et non pas des choses ridicules, inefficaces et liberticides.
Oui. Quand vous parlez justement de liberticide, donc cette liberté d'action, cette liberté de déplacement, de mouvement qui est menacée évidemment en confinement, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire associer à ces mouvements de complotistes ou de conspirationnistes ou les mouvements des gens anti-masques? On en a beaucoup ici au Québec. J'imagine qu'il y en a aussi quelques-uns en France. Vous n'avez pas peur de cette association qu'on pourrait faire?
Pour vous répondre très honnêtement, oui, j'ai peur, car nous n'avons absolument rien à voir avec ces mouvements. Nous ne sommes pas du tout anti-masques. Nous ne nions pas du tout le fait que la COVID-19 soit un vrai problème de santé publique.
D'accord.
À cause de la saturation des hôpitaux. Nous proposons justement une stratégie sanitaire alternative qui nous paraît plus efficace pour sauver des vies. Nous pensons que le virus est une création de la nature. Nous ne voyons aucun complot nulle part. Je vais vous dire quelque chose. S'il y avait un complot, en fait, mon co-auteur et moi, on serait rassurés. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui, quelque part, décident de quelque chose.
Qui tirent les ficelles.
On voit de l'incompétence et des dirigeants qui... Enfin, pas dans tous les pays, hein, les dirigeants allemands, les dirigeants suédois, les dirigeants taïwanais, eux, ce sont coréens, ont très bien su faire face. Mais que dans certains pays, les pays adeptes du confinement, on a l'impression de dirigeants désemparés, paniqués, et que justement, contrairement à ce que pensent les complotistes, il n'y a personne pour prendre des décisions. Donc nous ne sommes absolument pas complotistes, c'est une création de la nature, et on n'est pas anti-masque. Au contraire, dans notre livre, on dit... le masque en extérieur ne sert à rien, mais par contre, on lutte pour le port du masque dans les transports. Et on essaye de proposer une stratégie. On a été en contact avec de nombreux médecins pour la mettre au point, également de regarder ce qui se faisait à l'étranger dans les pays qui ont eu de bons résultats. Et on a on n'est pas du tout dans une logique de complotisme ou de déni.
Bon, ça nous rassure, ça nous rassure. Monsieur Bonamy, on va se terminer avec une toute dernière question. Vous avez vraiment le sens des images, vous avez le sens des formules un peu choc. Vous avez dit, par exemple, que si le confinement était un essai sur un médicament, bon, on l'aurait tout de suite arrêté parce qu'il y a tellement d'effets secondaires terribles. Oui, et ça, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais vous avez aussi une autre phrase choc. Vous dites « vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras ». Donc, devant l'ampleur de la tâche, le confinement, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, finalement.
Oui. Simplement, nous, on vous laisse s'appuyer sur les chiffres de mortalité. En France, actuellement, on est à 40 000 morts, et c'est un taux de mort par habitant qui est 4 fois supérieur à celui de notre voisin allemand, un pays géographiquement et culturellement proche. Mmh. Et les Allemands qui ont confiné aussi ont moins confiné que nous. Au printemps, ils ont déconfiné beaucoup plus tôt, 3 semaines avant nous. Leur confinement était beaucoup moins sévère. Mais par contre, ils ont tout misé sur la qualité de soins et le dépistage de masse. Et donc, on pense que le confinement, c'est comme si les Japonais, qui sont très frappés par les tremblements de terre, avaient l'idée bizarre de vouloir à tout prix arrêter les tremblements de terre. Non, c'est impossible de les arrêter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire des choses, par exemple faire des constructions antisismiques. Eh bien, pour l'épidémie, c'est la même chose. C'est une réalité naturelle. Le confinement ne marche pas très bien. On voit que des pays qui confinent très durement ont pourtant beaucoup de morts, et qu'on peut mettre en place d'autres stratégies à la fois moins coûteuses en termes économiques pour les libertés et en même temps plus efficaces.
Oui, bah écoutez, c'est drôlement intéressant en tout cas comme discussion, et je trouve que ça alimente la réflexion, c'est-à-dire que on a l'impression parfois que c'est tout l'un ou tout l'autre. Je sais pas comment sont les débats en France, mais ici au Québec, c'est soit un extrême de gens qui disent bon, il faut enfermer tout le monde et rien faire pendant des mois et des années, et de l'autre côté des gens qui disent ben non, moi je porte pas le masque, s'il y a un vaccin, je le prendrai pas. Voilà. Mais je pense que votre livre amène énormément de nuances et de réflexions sur
une voie nuancée, voilà, du juste milieu.
Voilà. Et puis surtout de trouver une solution plutôt que simplement dire le confinement marche pas. Oui, mais d'accord, essayons de trouver une autre façon de faire les choses, en tout cas.
Quelque chose fait avec des médecins.
Très intéressant. Ben écoutez, merci beaucoup Monsieur Bonamy d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Je rappelle donc que votre livre, Jean-Loup Bonamy, que vous avez écrit avec Renaud Girard, ça s'intitule « Quand la psychose fait dérailler le monde » aux éditions Trac Gallimard. Très 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 intéressant comme réflexion. Merci beaucoup.
Merci à vous et vive le Québec libre.
Oh, comme c'est gentil, comme c'est gentil. Oui, ben ça, on avait deviné.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
Alors, en ce moment, le Québec est poursuivi. En fait, les valeurs québécoises sont en procès. Pourquoi? Ben parce que depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant, la loi 21 se retrouve devant les tribunaux, mais on l'a dit à plusieurs reprises à cette émission avec différents invités, c'est pas juste la loi 21 qui est jugée sur la place publique, c'est ce sont en fait des valeurs de laïcité très chères aux Québécois. On va en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour monsieur Bastien, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va très bien, vous?
Oui, ben ça va très bien. Écoutez, sur votre page Facebook, vous relatez quelque chose d'assez étonnant qui s'est produit lors de ces représentations juridiques quant à la loi 21. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Ben en fait, il y a deux jours, un des témoins qui a été appelé par le mouvement laïque québécois qui est aux côtés du gouvernement pour défendre la loi 21. Donc, ils ont fait venir un témoin. Et en fait, cet homme, l'an dernier, avait une enseignante voilée pour son fils qui était à l'école, dans une école de la région de Montréal. Et évidemment, il n'était pas du tout content de ça. Et il a raconté que cette enseignante-là donnait le cours d'enseignement culturel des religions.
Ouais.
Et elle était voilée alors qu'elle parlait des différentes religions. Et d'après le témoignage de cet homme-là, eh bien, évidemment, elle s'attardait plus sur la religion musulmane, n'est-ce pas? Et donc, autrement dit, elle en profitait pour faire du prosélytisme religieux, pour faire, au fond, une prêche, un peu de façon un peu indirecte, en quelque sorte, en faveur de sa religion, dont elle affiche ses couleurs devant les élèves. Et là, ce qui rend ce témoignage-là aussi encore, je dirais, plus particulier, c'est que cet homme-là est originaire du Maghreb. Alors là,
donc, de culture musulmane. De culture musulmane.
Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, évidemment, ça n'a pas du tout fait l'affaire des avocats qui contestent la loi 21, évidemment, parce que eux, leur but, c'est de présenter. Évidemment, ça tourne beaucoup autour des signes religieux et ça tourne beaucoup autour des signes religieux interdits pour les enseignants et les enseignantes. Alors, on est donc sur un des points qui suscite le plus de controverses parce que là, on avait, dans la semaine qui a précédé, beaucoup d'enseignantes ou de futures enseignantes qui disaient « Moi, je peux pas enseigner voilé, c'est vraiment terrible, etc., etc. » Et là, vous avez le cas rapporté d'une enseignante qui profite de son poste, de sa situation d'autorité, mm-hmm. pour faire du prosélytisme religieux, et c'est rapporté par quelqu'un qui est musulman. Alors, ça renvoie à un tout autre...
Ça rentre pas dans leur narratif, ouais.
Non, exactement, ça rentre pas dans le récit qu'on nous présente, et ça renvoie à une image, beaucoup plus diversifiée, disons ça comme ça, des différents cas de figure qu'on retrouve dans nos écoles.
Oui, mais en même temps, monsieur Bastien, il y a quelqu'un qui pourrait faire l'argument totalement contraire, de dire, bon, cette enseignante-là, qui porte le voile et qui, selon le témoin, fait du prosélytisme, elle pourrait très bien en faire, qu'elle porte le voile ou pas. C'est-à-dire que même si elle n'affichait pas de quelle religion elle est, ça ne teinterait pas le fait que elle fait du prosélytisme. C'est pas son voile qui fait du prosélytisme, c'est elle.
Oui, on pourrait soutenir cet argument-là, mais moi, je pense que soutenir une telle chose, c'est pas... ça tient pas la route, vraiment, parce que il y a, en partant, l'apparence de neutralité qui est violée. Mmh. Parce que là, on parle évidemment d'une enseignante, ou ça peut être évidemment un enseignant, qui est devant des élèves, et donc qui affiche ses couleurs, hein, parce que quand on porte un signe religieux, c'est qu'on affiche une vision sacrée du monde que l'on partage. Alors, c'est pas n'importe quel, c'est pas pour me porter un t-shirt, je sais pas moi, du Canadien de Montréal, par exemple, là, ou quelque chose de comme ça, qui a pas du tout le même genre d'incidence. Et donc, déjà en partant, il y a, à tout le moins, il y a l'apparence de neutralité qui est, évidemment, l'enseignante pourrait ne pas porter de signes religieux, elle pourrait en profiter évidemment quand même pour faire du prosélytisme. C'est vrai, mais c'est pire quand on affiche un signe religieux. Et même si l'enseignante ne fait pas de prosélytisme, elle ne fait que porter un signe religieux, mais elle demeure, on va dire, objective ou neutre durant son enseignement, ça reste que l'apparence est là. Donc, autrement c'est-à-dire dit, que la c'est neutralité... comme
C'est ouais, comme un professeur de sciences politiques qui porterait, au moment où il parle, mettons, du référendum de 1995, qui porterait un T-shirt avec un ou qui porterait un macaron du oui ou un macaron du non. Ben, au moment où il fait son cours sur le référendum de 95, il est en train de nous dire pour qui lui a voté, alors que s'il enseigne à des jeunes, on n'a pas d'affaire à savoir pour qui il a voté.
Ben, exactement. Et moi, j'irais même plus loin que ça. Je veux dire, allez-y. Moi, j'ai vu au cours de ma longue, assez longue carrière d'enseignant qui n'est pas terminée, qui se poursuit. J'ai vu des professeurs, par exemple, durant la grève étudiante, qui portaient des carrés rouges devant leurs étudiants.
Ah oui.
Alors, oui, et je trouvais ça tout à fait aberrant parce que là, évidemment, je suis sûr qu'il devait en être question de la grève étudiante dans un cégep. Je peux vous dire que c'est un sujet très.
C'est
très
sûr. Discuté.
Alors, donc, c'est pas du tout le rôle. Évidemment, le professeur a des opinions, il a le droit de les avoir, bien sûr, il a le droit même de les afficher, de prendre la parole publiquement, bien sûr. Mais dans la classe, c'est une question de mélange des genres. C'est ça la différence. C'est que dans la classe, on s'attend à ce que le professeur ne parle pas de ces choses-là parce que il n'est pas là pour ça. Donc, bon, alors je l'ai vu aussi durant la loi 21, des professeurs qui affichaient leurs convictions par rapport au débat, ben, quand elle a été adoptée, là,
tout ça
se continue évidemment devant les tribunaux maintenant, mais alors c'est ça, on est le professeur de tous les élèves. Alors quand vous portez un signe religieux, par exemple, il y a des bonnes chances que dans le cours, il y ait des élèves qui portent le même signe religieux que vous. Alors, vous portez une croix chrétienne ou une kippa juive ou un voile musulman ou un autre signe religieux.
Un turban, bon,
un turban, voilà, exactement. Il y a des très bonnes chances que d'autres élèves partagent cette conviction et l'affichent. Et là, vous imaginez, par exemple, mettons qu'il y a un travail d'équipe et pour une raison X ou Y, il y a une dispute au sein d'une équipe. Un tel n'a pas assez travaillé, un étudiant se plaint d'un autre étudiant. Et là, imaginez que le professeur, lui, porte un des signes religieux d'un des étudiants qui travaille dans l'équipe en question. Il y a un conflit entre les membres de l'équipe. Alors, on se place dans une situation qui devient très, très problématique. Et évidemment, si vous enseignez la religion, mais c'est encore pire. Donc,
Ouais. Il s'est passé quelque chose d'assez particulier quand même la semaine dernière lors de ce procès, de ces représentations à la Cour supérieure. Donc, il y a différentes femmes qui sont venues témoigner, des femmes qui portaient le voile musulman, mais il y a également Amrit Kaur qui a témoigné à distance, et elle est sikh, et elle porte le turban. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, puis je vais en parler avec vous, Monsieur Bastien, parce que chez les sikhs, c'est normalement les hommes qui portent le turban, il y a vraiment une infime proportion de femmes qui portent le turban. Et je trouve ça intéressant d'en parler avec vous parce que on nous dit, les opposants à la loi 21 disent « cette loi-là est juste pour pointer du doigt les femmes musulmanes et vous les empêcher d'aller travailler. » Mais c'est assez particulier parce qu'il n'y a rien dans la loi qui vise plus une religion qu'une autre. Et les opposants à la loi ont choisi de faire témoigner une femme qui n'est pas musulmane et qui porte le turban alors qu'elle est minoritaire dans sa religion. C'est une drôle de stratégie de leur part, non?
Ben absolument. De toute façon, moi, je dirais en partant, l'État n'a pas à déterminer qui doit porter quoi dans une religion. Ça relève de chaque religion. Mais dire après ça que les femmes sont plus visées, ben ça ne tient pas du tout la route. Moi, je peux vous dire que dans ma carrière d'enseignant, j'ai enseigné au Québec, en Ontario, j'ai beaucoup plus souvent vu des hommes professeurs qui portaient la kippa juive, par exemple, et qui la portaient durant leur cours, par exemple, des femmes voilées. En fait, dans ce que j'ai vu quelques cas de kippa juive, et vraiment très peu souvent, mais c'est arrivé peut-être une fois ou deux, où j'ai vu des enseignantes qui portaient le voile musulman, mais bref.
Donc, mathématiquement, la loi 21, puisqu'elle s'applique à tous les signes religieux, aurait plus d'impact sur les Juifs qui portent la kippa que sur les femmes musulmanes qui portent le voile ou les quelques rares femmes sikhs qui portent le turban.
Ben, en tout cas, j'ai pas fait le calcul, mais de toute façon, tout ça n'est pas pertinent parce que les opposants, moi, je pense, sont de mauvaise foi. D'abord, ils invoquent que la loi est une discrimination contre les femmes et ils invoquent la Charte canadienne des droits et libertés là, qui nous a été imposée, comme vous savez, sans notre consentement.
Mm-hmm. On l'a pas signé.
Alors, d'abord, c'est faux. Voilà, c'est faux. D'abord, c'est faux puisque la loi ne vise ni plus ni moins les hommes que les femmes. Et l'exemple que vous donnez d'un turban porté par une femme ou l'exemple que je donne de la kippa juive illustre très bien cette situation. Donc, c'est pas vrai. La loi, et elle vise autant, moi, je veux dire, si demain, un professeur ou, disons, un futur professeur veut se faire embaucher, il porte une croix religieuse, il va une croix chrétienne, il va également se faire refuser le poste parce qu'il est visé, il ou elle est visé par la loi 21. Donc, ça vise vraiment tout le monde. Et je vous signale qu'on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi 21, qui est un symbole chrétien. Donc, arrêtons.
On l'avait enlevé dans les écoles aussi. On l'avait enlevé dans les écoles depuis un bon moment, justement pour pas que les étudiants, les élèves, soient exposés à un prosélytisme religieux. Donc, on enlève les crucifix dans les écoles, mais on permet que les professeurs portent un signe religieux. C'est un peu particulier. Je veux absolument vous entendre, Monsieur Bastien, sur un texte qui a été publié par CBC. Puis moi, honnêtement, je l'avais pas vu passer. C'est mon mari qui me l'a souligné. C'est un texte qui rapporte que une des personnes qui est venue témoigner pour la loi contre la loi 21 disait, ben écoutez, si jamais on garde cette loi-là, ça va créer énormément de préjudices aux personnes musulmanes et il risque d'y avoir une augmentation du taux de suicide. Mais les deux bras m'en sont tombés quand même.
Ben, vous savez, dans ce genre de débat-là, moi je pense que les opposants, en fait, comme je le disais, sont de mauvaise foi. Alors, il y a une vision très claire qui est une vision multiculturaliste canadienne qu'on essaie d'appliquer au Québec et qui doit en fait s'appliquer dans tout le Canada, ce qui explique que la personne dont vous parlez, la femme qui porte le turban, si ma mémoire est bonne, est en Colombie-Britannique, cette personne-là.
Oui, absolument, à Vancouver.
Et elle n'est absolument pas touchée par la loi 21. Il n'y a pas personne qui va... La loi 21 ne s'applique pas à Vancouver, à ce que je sache. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle vient témoigner? En fait, il y a une question de vision de ce qu'est le Canada. Et pour plusieurs personnes, il y a une vision sacrée du Canada qui s'appelle le multiculturalisme canadien. On ne peut pas déroger à ça. Et donc, on est dans un acte de foi, on est dans une religion politique. Et là, il n'y a plus de discussion rationnelle. Tous les arguments qu'on va pouvoir trouver, on va essayer de les utiliser. On va étirer la sauce au maximum. Et là, cet argument-là du suicide, mais alors là, c'est vraiment, là, je veux dire, complètement farfelu. Et je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont pu calculer ou estimer ou soutenir ce genre d'argument-là. Alors, mais bref, les opposants sont prêts à tout parce qu'ils défendent une vision sacrée multiculturaliste du Canada. Et ça, évidemment, la loi 21 s'insère tout à fait en opposition à ça, et pour eux, c'est inacceptable.
Alors, on parlait d'un certain nombre de d'issues négatives à cette loi 21, donc une augmentation des crimes haineux, une diminution de la santé mentale et une augmentation du suicide, rien de moins. Merci beaucoup, Frédéric Bastien, d'être venu réfléchir avec nous aux impacts qu'a... Merci Frédéric Bastien donc qui nous parlait de ce témoignage qu'il y a eu au procès de la loi 21, une prof voilée qui a donné le cours d'enseignement culturel des religions et le père d'un des élèves qui se plaint qu'elle ait fait du prosélytisme. Ça fait partie des témoignages qui ont été entendus dans tout ce débat autour de la loi 21. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment formidable de vous avoir comme auditeur à Cube et bien sûr, comme toujours, je vous retrouve demain. Je veux remercier au passage mon équipe absolument fabuleuse, même si elle est toute petite, toute minuscule. Sébastien Leferrière à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Je vous dis merci et à demain. Cube Radio.